France Inter. Jean-François Beauchemin, bonjour.
Bonjour.
Pourquoi écrivez-vous ?
Ah, c'est une grande question. Et je vais tenter de faire une réponse courte à cette grande question. Je crois pouvoir dire que si j'écris, c'est que je ne suis pas musicien. J'écris parce que je ne sais pas faire de musique. Alors je fais de la musique avec mes mots, quoi. J'essaye, enfin.
Pour qui écrivez-vous?
Eh bien, ma réponse va vous sembler un peu triviale, peut-être, mais j'écris pour les gens. Hein, c'est drôle à dire, peut-être, mais j'écris pour les gens. C'est-à-dire pour rendre les gens heureux, pour les... Oui, pour... Pour eux, en tout cas. Certainement pas pour moi, certainement pas pour les journalistes, certainement pas pour la postérité, hein? Soyons sérieux. Alors j'écris pour les gens, pour ceux qui veulent bien se donner la peine d'ouvrir mes livres.
Si vous étiez un livre, quel en serait le titre?
Eh bien, je pense que je vais m'inspirer d'une belle chanson d'un de vos compatriotes, Serge Lama, qui a composé, je pense, et en tout cas qui chante, une belle chanson qui s'intitule « La vie simple et tranquille ». Je pense que si j'étais un livre, c'est le titre que j'adopterais, que je voudrais qu'on me donne, en tout cas. « La vie simple et tranquille », parce que c'est tout à fait à l'image de
C'est à l'image de vos livres aussi. Romancier, auteur ou écrivain?
Ben, écrivain, parce que, ma foi, je suis plus qu'un romancier, en ce sens que je n'écris pas que des romans, j'écris aussi des récits, de la poésie, des nouvelles, toutes sortes de trucs. Alors, je suis davantage qu'un romancier. Et un auteur, ça me semble un peu... ça manque de précision, je trouve, un auteur. Hein? Alors que, dans le mot écrivain, il y a les lettres qui forment la syllabe « écrit ». C'est déjà plus complet, je trouve, comme terme. Alors moi, je suis un écrivain. Je me présente toujours comme ça, beaucoup plus que comme un auteur ou comme un romancier. Je suis un écrivain, un homme qui écrit, quoi.
France Inter, Radio-Canada, RTS La Première, RTBF La Première, etc., Lilia Hassel.
Bienvenue dans Etc. Cette semaine, on reçoit l'un des plus grands écrivains québécois, l'un des plus prolifiques aussi, Jean-François Beauchemin. Rare dans les médias, il a accepté notre invitation à l'occasion de la réédition de son roman Le jour des corneilles. 20 ans après sa sortie, les éditions Québec-Amérique en publient une nouvelle édition avec une postface en forme de manifeste littéraire. Rappelons que Le jour des corneilles, livre écrit en 15 jours, fut un succès international et qu'il a même été adapté au cinéma en 2012 sous la forme d'un film d'animation. Avec Jean-François Beauchemin, on parlera aussi de ses derniers romans, Le roi Éloge de la lenteur et des bonheurs quotidiens, prix des libraires Folio 2024, et 3 ans sur un banc, recueil de nouvelles né d'une idée originale. Pendant 3 ans, il s'est installé toutes les semaines sur le même banc et a invité des inconnus à lui raconter des anecdotes improbables ou marquantes. Ce recueil, disponible au Québec depuis 2022, paraît cette semaine en France. Vous l'aurez compris, l'œuvre de Jean-François Beauchemin est riche, poétique, elle questionne notre condition humaine. Nos libraires francophones sont fans et ils ont plein de questions à lui poser. Vous écoutez Etc. C'est parti.
Etc.
Jean-François Beauchemin, bonjour. Rebonjour.
Bonjour Lilia, bonjour.
Alors j'aimerais qu'on commence cette émission par votre livre Le jour des corneilles. 20 ans après sa sortie, comment expliquez-vous le succès de ce texte que vous qualifiez de petit roman halluciné?
Oui, je vous avoue que j'explique assez mal ce succès moi-même. J'étais loin de me douter que ce livre, écrit, comme vous l'avez dit, en 15 jours, il y a 20 ans, traverserait d'abord l'océan pour arriver jusque chez vous, et puis qu'il connaîtrait, en Europe, comme ici d'ailleurs, un tel succès. Ce succès-là, ma foi, demeure mystérieux pour moi. Je me l'explique assez mal, je ne sais pas trop. Des fois, je me dis que... ça tient peut-être au fait que dans ce roman-là, dans cette histoire du jour des corneilles, il y a beaucoup de grands espaces, hein, comme on en a tant chez nous au Québec. Il y a aussi une forêt profonde. Alors, des fois, je me dis que peut-être que c'est ça qui attire les Européens que vous êtes. Les grands espaces, les forêts denses et profondes et mystérieuses.
Alors il faut qu'on raconte quand même l'histoire. C'est celle d'un père et d'un fils qui vivent en autarcie dans la forêt, dans une forme de sauvagerie coupée du monde. Le père est rude, sévère, la mère est morte. Mais l'enfant, lui, est en quête d'humanité et de sentiments. Comment cette histoire est née ? C'est un rêve ?
Non, c'est pas un rêve. J'ai conçu cette histoire-là. En fait, l'idée première est née à la sortie du cinéma pour moi. J'étais allé voir un film ici qui s'appelle Un homme d'exception, A Beautiful Mind en anglais. Et si vous vous souvenez, parce que je pense que vous avez connu aussi ce film-là à l'époque, chez vous, c'est l'histoire, un homme d'exception, d'un homme qui est atteint de schizophrénie et qui vit donc toute sa vie à cheval, si on veut, entre deux mondes, c'est-à-dire le monde réel, le nôtre, et puis le sien, celui que son cerveau malade lui invente. Alors moi, en sortant du cinéma, après avoir vu ce film extraordinaire, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est? Comment peut-on vivre comme ça? Hein? Déchiré, au fond, entre deux mondes, l'un réel et l'autre imaginé, imaginaire. Je trouvais ça à la fois très mystérieux et puis fascinant, captivant, si bien que je me suis mis à réfléchir à la question. Et cette même nuit-là, je me rappelle, est née dans mon petit cerveau, n'est-ce pas, actif, cette idée de mettre en scène, donc, dans un roman, un personnage, au moins un en tout cas, dans Le Jour des Corneilles, il se trouve qu'ils sont plutôt deux, là, à avoir l'esprit plus ou moins malade.
Esprit divisé. Vous écrivez un moment dans votre postface, c'est pour ça que je vous parlais de rêve, je me rappelle en tout cas avoir rêvé d'un homme mentalement troublé, que la société épouvante et dégoûte plus ou moins, et qui par conséquent cherche à se réfugier loin d'elle. Je m'émerveille toujours de ce travail préparatoire de l'inconscient qui pressent, on dirait, l'imminence des démarches à venir.
Oui, ben c'est ça. C'est pas tout à fait un rêve que j'ai fait, mais c'est comme je le disais il y a un instant, c'est au fond la réflexion que je me suis faite au sortir du cinéma, qui s'est poursuivie jusque dans mon sommeil, ou enfin jusque dans mon demi-sommeil, dans la nuit qui a suivi cette séance de cinéma. Alors c'est un peu comme ça que l'idée a germé dans mon cerveau, et qui est née en même temps, donc, cette idée du roman Le Jour des Corneilles. Et dès le lendemain, je me suis mis à l'ouvrage et j'ai créé ce personnage et je les ai mis les deux dans ce décor aussi qui correspondait à cet esprit dense et luxuriant et puis un peu mystérieux. Donc, j'ai créé aussi cette forêt.
Ce qui est fou, Jean-François Beauchemin, c'est que ce livre a été écrit en 15 jours. Vous l'avez dit. Comment est-ce possible d'écrire un livre pareil en 15 jours?
Ah, ça, je l'ignore. Je ne sais pas comment j'ai fait ça, mais chez moi, c'est un trait, je dirais. J'écris assez souvent comme ça, assez rapidement. Mes éditeurs vous le diront. Je l'ai fourni en manuscrit, ma foi, assez souvent.
Mais vous dormez pas ? Vous écrivez la nuit ?
Non, je dors très bien et très souvent aussi. Mais quand le jour se lève, je commence tôt, il faut le dire, et puis je finis tard. Puis, sans passer ma vie à écrire, parce que j'ai une vie, cela dit, une vraie vie, là. Mais ma vie d'écrivain, appelons-la comme ça, est assez, c'est vrai, assez dense, assez chargée, assez occupée.
Et qu'est-ce que ça vous apporte d'écrire tout comme ça d'un jet?
Ça m'apporte, ça fait que, en tout cas, ça répond à ce besoin que j'ai d'inventer des histoires, des personnages, et surtout, ça répond à ce besoin que j'ai et à ce grand plaisir que j'ai de mettre des mots ensemble, hein, pour faire de la musique. Je le disais il y a un instant, moi, mon grand plaisir dans ce métier d'écrivain, c'est ça, c'est de mettre des mots ensemble, de les assembler de façon telle que de cet assemblage émerge quelque chose. Hein, c'est-à-dire quoi? Une idée, une pensée, une image, une musique, une mélodie. Pour moi, c'est ça le métier d'écrivain.
Jean-François Beauchemin, on continue à parler de poésie et de musique dans quelques instants. Mais d'abord, on écoute Ascendant Vierge au milieu.
décrescendo comme avant propos. Même le slow n'a plus le tempo. Réveil en sursaut à tout niveau. Un scénario en un seul tableau. Avancer, reculer, c'est le
etc. Nous sommes toujours en compagnie du romancier québécois Jean-François Beauchemin et c'est peu dire que nos libraires francophones sont ravis. En studio avec nous, Thomas Auxerre de la librairie Lamandier à Puteaux. Thomas Auxerre, bonjour.
Bonjour Lilia.
Alors vous êtes un grand admirateur de Jean-François Beauchemin et ce depuis 20 ans, depuis le jour des Corneilles.
Eh bien exactement, moi je suis un grand fan et je suis très heureux de le dire. Moi Jean-François, je l'ai découvert avec son roman donc cultissime, Le jour des Corneilles. C'est vrai que c'était il y a 20 ans, pour moi ça avait été une claque totale et je crois que c'est le cas aussi de plein de libraires hein, qui l'ont déjà lu et qui le transmettent, enfin qui le partagent ou en tout cas voilà, qui en font écho à leurs lecteurs. Donc au début voilà, on ne sait pas trop si ça se passe au Moyen-Âge, si les personnages ont un retard de langage, mais moi la langue, les descriptions qui sont tonitruantes, bancales et finalement très poétiques, tout ça fait que c'est un roman extrêmement prenant, il y a plein de trouvailles, enfin voilà. Pour moi, c'est un ovni. Hein. Quand je l'ai lu, je suis vraiment tombé de ma chaise. Et voilà. Après, je m'interroge toujours parce que Jean-François disait qu'il s'étonnait un petit peu du succès. Ça m'interroge. Pourquoi est-ce qu'il s'interroge de... Enfin, pourquoi est-ce que vous vous interrogez de ce succès, Jean-François?
Ben, je sais pas trop, parce qu'il reste que, comme tu le dis à l'instant, Thomas, pour moi aussi, hein, en écrivant le roman en question, en écrivant ce roman-là, j'avais le sentiment d'être en train d'écrire un ovni. Alors, je me disais, en l'écrivant, je me souviens très bien, je me disais, mais qui va lire ça? Et combien d'exemplaires on va en vendre? 22. Et puis, dans deux semaines, on n'en parlera plus, c'est sûr. Et bien, tu vois, ça fait 20 ans, on en parle encore. Et puis, on en a vendu je ne sais pas combien de milliers d'exemplaires.
Vous disiez, Jean-François Bauchemin, en début d'émission, que vous n'écriviez pas pour... Enfin, vous écriviez pour les gens. Oui. Quand vous avez écrit Le Jour des Corneilles, finalement, vous n'avez pas forcément pensé au lecteur. Vous étiez dans votre tête, dans votre projet.
Oui, c'était une autre époque. Hein. J'avais pas les mêmes idées qu'aujourd'hui sur ce métier-là. J'avais pas les mêmes intentions, c'est vrai.
Et finalement, ça marche de pas toujours penser au lecteur.
Oui, on dirait, mais cela dit, je n'ai pas écrit Le Jour des Corneilles particulièrement pour moi-même. C'est vrai que je me suis fait plaisir pas mal, surtout avec cette langue que j'ai inventée à l'époque, que j'ai eu beaucoup de plaisir à faire ça. Mais quand même, j'espérais secrètement peut-être qu'une ou deux personnes à part moi s'attachent à cette histoire-là.
C'est vrai que cette langue, elle est sublime. Vous avez une phrase magnifique, notamment pour définir la tristesse du père. Alors, il faut expliquer que cet homme a perdu sa femme. Ouais. Il vit dans la forêt avec son petit garçon, qui donc lui a perdu sa maman. Et tandis que le père est marqué par un chagrin qu'il ne sait pas exprimer, le fils, lui, cherche à comprendre par les mots, sa propre mélancolie. Et il y a une phrase qui est sublime pour définir la tristesse du père. Vous dites « La tristesse semble attisser dans ses os comme le lierre s'enroule autour d'un vieux tronc. » Vous avez inventé une langue dans ce livre. Comment est né ce langage poétique, métaphorique ?
Comment il est né, ça c'est un autre des mystères de ce métier-là. Comment j'ai mis au point cette langue-là, comment je l'ai apprise, je ne le sais pas trop. C'est un mélange de vieux français, c'est vrai. On m'a beaucoup dit, les Français surtout m'ont beaucoup dit, est-ce que c'est du québécois?
C'est drôle.
Et puis, ce n'en est pas, hein, je vous le confirme, on ne parle pas comme ça chez nous.
Oui, parce que vous supprimez des mots. Voilà,
c'est et puis, on en invente, on en déforme d'autres, et puis voilà, mais on le fait pas comme ça. Il y a personne qui parle comme comme dans Le Jour des Corneilles ici, là.
Oui.
Donc, c'est une langue que j'ai vraiment inventée, mais d'où vient-elle? Je n'en sais rien, parce que c'est pas une langue que j'ai entendue par ailleurs, nulle part. Ni dans ma vie, ni dans ma jeunesse, ni chez vous en Europe, ni, bon,
non, peut-être
dans,
Thomas
peut-être
Husserl
dans
a raison.
Les livres.
C'est une langue qui est presque moyenâgeuse.
Oui, c'est ça. Certains ont parlé de Ronsard, d'une langue issue de cette époque-là. C'est possible, parce que moi, j'ai quand même une formation littéraire assez classique, là. Et puis, j'ai baigné pendant quelques années dans cette littérature-là, issue de la France du Moyen-Âge. Mais ça
étant dit... Il y a beaucoup d'influence, oui.
Peut-être qu'il y a ça, mais je pense pas que ce soit la seule explication, hein, cela dit. Là.
Thomas Husserl, vous le recommanderiez à qui, ce roman? Dans votre librairie, vous le recommandez à qui?
Oh, bah alors moi, Lilia, c'est simple, hein, je le recommande à tout le monde. Vraiment, alors peut-être pas forcément tous les gens qui franchissent la porte, mais pas loin, en fait. Nous, ça fait 20 ans qu'il est paru, et alors il y a quelques petites ruptures de stock, et voilà, et la vie est là, merci Québec-Amérique de le ressortir dans un bel écran, mais c'est un livre qui est toujours présent sur nos tables, donc moi, je le conseille à tout le monde, des gens qui lisent un livre tous les 8 ans, des gens qui lisent 2 livres par semaine, des gens qui veulent un roman, des gens qui veulent de la tendresse, de l'amour, des gens qui veulent de la curiosité. Enfin, vraiment, je le recommande à tout le monde.
Et puis, c'est vrai que, pour renchérir sur ce que Thomas vient de dire, c'est vrai que moi, j'ai des messages de lecteurs de tous les âges, hein, et de toutes les origines qui m'écrivent pour me dire qu'ils viennent de terminer Le Jour des Corneilles et qu'ils ont aimé ça. Mais il y a vraiment des gens très, très différents les uns des autres, et de tous les âges. Et donc, c'est vraiment un signe que ce livre-là, par je ne sais quel miracle, rejoint beaucoup, beaucoup de gens, très différents les uns des autres. Et ça aussi, je tente depuis 20 ans de me l'expliquer en vain.
Thomas Husserl ?
Oui, justement, une petite question, Jean-François, parce que j'ai vu, comme dans plusieurs des livres, qu'il y avait justement l'email pour écrire à Jean-François Bauchemin.
Oui, à la fin du livre.
Bah oui, et ça représente quelle correspondance ? Enfin, quel volume, je me demande. Bah oui, c'est...
C'est vrai que c'est curieux, il n'y a pas beaucoup d'auteurs qui font ça, qui laissent leur mail à la fin des livres.
Ben moi, je n'en connais pas, je n'en connais aucun autre, à part moi.
C'est ce que j'allais dire, je n'en connais pas d'autres.
Oui, mais ta question, Thomas, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu veux dire?
Est-ce que tu as le temps de prendre en compte tous les messages?
En termes de temps que j'y mets?
Ouais, et puis la masse que ça représente, je me rends pas compte, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui doivent t'écrire.
Oui, je reçois, c'est quotidien, hein, je reçois ici chez moi, à chaque jour de ma vie, quelques messages du genre, pour l'un ou l'autre de mes livres, pas seulement pour le jour des Corneilles d'ailleurs. Et puis alors donc, si c'est distribué comme ça quotidiennement sur les 7 jours de la semaine, ben c'est pas pour moi, ce n'est pas tant de travail que ça, hein, parce qu'il faut le dire aussi, je réponds à tout le monde, sans exception. C'est un devoir que je me fais.
Et qu'est-ce que ça vous apporte de recevoir ces mails?
D'abord, ça me confirme que je rejoins les gens. Ça veut dire que le livre s'est rendu jusque dans les maisons des gens. Et puis, ça m'apporte beaucoup aussi de plaisir, beaucoup. Ça me permet, en fait, je vais le dire autrement, ça me permet de poursuivre la conversation que j'ai entamée en publiant le livre. Parce que pour moi, le métier d'écrivain, c'est ça aussi, hein, c'est de dialoguer avec les gens, avec monsieur, madame, tout le monde, et d'entrer chez eux, de cogner à la porte, de dialoguer avec eux, de m'asseoir chez eux pendant quelques heures, et d'entamer, oui, une conversation avec eux, par l'entremise du livre. Pour moi, écrire un livre et le publier, c'est ça. C'est d'engager une conversation. Et puis, voilà. Donc, quand les gens me répondent comme ça par courrier, eh bien, pour moi, c'est l'occasion de poursuivre la conversation que j'ai entamée avec eux. Par d'autres moyens.
Jean-François Bauchemin, vous restez avec nous. Dans quelques instants, on parlera de vos autres romans, et en particulier de 3 ans sur un banc, votre recueil de nouvelles qui sort en France cette semaine.
Je reviens te chercher. Je savais que tu m'attendais. Je savais que l'on ne pourrait se passer l'un de l'autre longtemps. Je reviens te chercher. Ben tu vois, j'ai pas trop changé. Et je vois que de ton côté, tu as bien traversé le temps. Tous les deux, on s'est fait la guerre. C'est pillé, volé, ruiné. Qui a gagné, qui a perdu, on n'en sait rien, on ne sait plus. On se retrouve les mains nues. Mais après la guerre, il nous reste à faire la paix. Je reviens te chercher, tremblant comme un jeune marié, mais plus riche qu'au jour passé de tendresse et de larmes et de temps. Je reviens te chercher, j'ai l'air bête. Sur ce palier, aide-moi et viens m'embrasser. Un taxi est en bas qui attend. Je reviens te chercher.
Bienvenue ou re-bienvenue dans l'émission Etc. C'était Gilbert Bécaud, Je reviens te chercher. Et nous sommes toujours en compagnie de l'auteur québécois Jean-François Bauchemin.
Etc. Lilia Hassen.
Avant de parler de vos autres livres, Jean-François Beauchemin, j'aimerais qu'on dise encore un mot du jour des Corneilles. Donc cette histoire d'un père et d'un fils qui vivent dans une forêt en autarcie. Le père est quelqu'un d'assez dur. Et moi, ce qui m'a marqué personnellement, Jean-François Beauchemin, c'est la quête d'amour du fils.
Oui.
Vous écrivez, c'est comme si quelque chose en lui se souvenait de l'amour, de marque d'affection antérieure à sa vie sauvage qui en est si dépourvue. C'est un jeune garçon qui n'a jamais connu l'amour, il n'a jamais connu sa mère. Et j'ai trouvé que c'était sublime, cette idée de se souvenir de l'amour, d'avoir une intuition de l'amour.
Oui, c'est ça. Il y a une part d'intuition, je pense, chez cet enfant-là, dans Le jour des Corneilles, d'intuition ou de souvenirs vagues de ce qu'est ou de ce que pourrait être, oui, l'amour d'un parent, en tout cas. Et il s'en souvient tellement bien et avec tellement de précision qu'il le recherche, même en n'ayant jamais reçu de la part de son père la moindre marque d'affection. On dirait qu'il passe par-dessus ça, hein? Et puis qu'il se dit l'amour... Si je ne le vois pas, ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas nulle part, alors je vais le chercher. Et toute sa vie se résume à cette espèce de quête existentielle.
C'est une quête qui est partagée par tout le monde.
Oui, certainement. C'est peut-être là d'ailleurs où le roman devient, j'allais dire, universel. Je le dis avec une certaine réserve, parce que bon, il y a un peu de prétention là-dedans. Quand on dit j'ai écrit un roman,
c'est l'objectif de la littérature, non ? Que ce soit universel, sinon on écrit pour soi.
Universel, c'est un grand mot, je trouve. On écrit certainement pour les autres, mais de là à dire qu'on écrit pour tous les autres, il y a un pas que je ne franchis pas si facilement personnellement. Moi, c'est sûr que je veux aller vers l'autre quand j'écris là, à travers ce métier-là. Mais je ne prétends pas, je n'aspire pas même à rejoindre tout le monde. Ce serait... je ne sais pas comment faire ça.
En tout cas, ce que vous dites de l'amour est effectivement universel. À un autre moment dans le livre, vous écrivez... Il se souvient de cet amour fulgurant, vite interrompu, que lui a prodigué sa mère morte en couche. Puis souffrant de sa perte, il consacre sa vie à le retrouver. C'est vraiment une recherche d'amour primaire, l'amour vraiment dans le ventre de la mère.
Oui, c'est ça. Mais au fond, c'est l'amour qu'on recherche tous, non, hein? À savoir que cette espèce d'amour pur, non entamé, non perverti, par la vie en société, par la vie tout court. Lui, le personnage en question, en tout cas, semble se souvenir de ça, de cette émotion-là qu'il aurait vécue dans le ventre de sa mère ou peut-être dans les premiers instants de sa vie, avant que la mère meure. Mais en tout cas, il se souvient. Il y a une espèce d'intuition, disions-nous, oui, de souvenir vague de ça. D'ailleurs, on dirait bien que ce souvenir-là est comme marqué dans sa chair, hein? C'est d'ailleurs dans la chair du père qui va y aboutir à la fin.
Faut pas dire, faut pas raconter.
Non, je suis tenté de le raconter quand même.
si vous voulez, mais c'est vrai que je trouve que cette idée est tellement surprenante.
Oui, disons-le, puisque là on va frustrer vos auditeurs si on ne le dit pas. Ce qu'il faut dire, ce qu'il faut savoir, c'est que le jeune garçon donc du roman est en quête d'amour perpétuel, on l'a dit. Et tout le long de l'histoire, il va se poser la question, mais où est l'amour, puisque mon père ne m'en donne pas d'amour, puisque je ne le vois pas chez mon père, l'amour. Alors, où est-il, l'amour? Où est-il? C'est l'éternelle question qu'il se pose. Et à la toute fin, contre toute attente, et dans une espèce de... dans une scène assez spectaculaire, disons-le, le fils va s'en prendre à son père, il va le tuer, et il va le découper en morceaux, pour aller voir dans le corps, dans la chair même de son père, si par hasard
l'amour y est. Bon, ça n'enlève rien à la beauté du livre, de toute façon, qui tient à la langue. Donc, même si je vous ai laissé raconter la fin, il faut quand même...
Mais il reste que c'est un roman d'une certaine violence, quand même. Il faut quand même l'avouer. Tout du long, le père n'est pas tendre avec son fils. Hein. C'est pas un hasard d'ailleurs si le fils cherche l'amour, c'est qu'il n'a sous les yeux que l'exemple d'un homme violent,
violent, hein,
brutal. Alors, je pense qu'il réagit à l'inverse, c'est-à-dire en cherchant l'opposé de ce qu'il voit chez son père.
Alors, tout à l'heure, Jean-François Beauchemin, je vous ai présenté notre libraire Thomas Hausser. Bon, j'ai l'impression que vous vous connaissiez déjà, puisque vous vous tutoyez, n'est-ce pas, Thomas Hausser?
Oui, c'est vrai, on se connaissait déjà.
Oui, mais je tutoie tout le monde, il faut dire. Mais bientôt, je vais vous tutoyer, Liliane.
Mais allez-y.
Si on continue à se parler longtemps comme ça, là.
Thomas Hausser, vous avez adoré Le Jour des Corneilles, mais pas seulement. L'autre livre que vous recommandez dans votre librairie, c'est Le Roi te l'est, le livre qui a obtenu récemment le prix des libraires Folio 2024.
Tout à fait, Lilia. Oui, c'est vrai que moi, ce livre, Le Roi te l'est, il m'a tout simplement ébloui, pour aller très vite. Parce que d'une part, c'est vraiment très rare de lire un auteur qui arrive à tout dire avec peu, qui arrive à mettre au cœur de son écrit l'amour, la fraternité, la tendresse. C'est vrai que c'est aussi quelque part beaucoup moins violent que Le Jour des Corneilles. Et puis, tout ça ne ressemble pas non plus à une bluette ou à un truc un petit peu niais ou qui se voudrait un peu religieux. Moi, ce que j'aime bien, c'est que Jean-François Beauchemin arrive à prendre un sujet grave, là la schizophrénie, hein, dont est atteint le frère du narrateur, qui ressemble un petit peu à Jean-François, mais je crois que c'est pas tout à fait lui. Et il arrive à en faire un livre lumineux, qui met du baume au cœur, avec des vraies ambitions poétiques. Franchement, c'est confortable, hein, pour un libraire d'avoir sur ses tables du Jean-François Beauchemin, parce que bah voilà, on peut vraiment le conseiller, comme je disais tout à l'heure, ouais, à tout le monde.
Et puis c'est curieux, parce que encore une fois, il y a question de schizophrénie.
Oui.
Moi,
demander.
c'est quelqu'un ici qui m'a fait remarquer ça il n'y a pas si longtemps, qui me disait, coudonc, la maladie mentale, c'est ton dada, là, t'aimes ça en parler dans tes livres, on dirait.
Et donc?
Pas tant que ça, parce que je ne me souvenais pas, moi, avoir parlé de ça dans Le Jour des Corneilles, et dans quelques autres, d'ailleurs. C'est pas la première fois que je mets en scène des personnages à l'esprit dérangé.
Donc c'est inconscient.
Oui, complètement. Et puis, mais c'est quand même curieux, hein. Mais c'est pas. Alors, Le Roi te l'est, c'est vrai que cette réalité-là de la maladie mentale est au centre du récit. Mais j'avais pas fait le rapport avec Le Jour des Corneilles, ni avec aucun autre de mes livres qui parle de ces choses-là. C'est quand même curieux. C'est l'inconscient qui s'exprime, on le voit là.
Thomas Hausser, vous avez envie de terminer?
Ben oui, alors c'est vrai qu'il y a cette schizophrénie, mais alors c'est un thème central du livre, mais le vrai thème central du Roi te l'est, c'est quand même l'amour inconditionnel entre ces deux frères.
C'est la fraternité.
C'est la fraternité, et moi je dois le dire, hein, Lila, c'est vraiment le plus beau livre vraiment de ces dernières années, et peut-être même que j'ai jamais lu, qui parle aussi bien d'amour entre deux frères.
C'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup des livres qui parlent de fraternité.
Non, et là c'est touchant, c'est magnifique. Quoi.
Alors Le Roi te l'est, c'est l'histoire de la relation entre un homme écrivain et son frère cadet schizophrène. Le Roi te l'est, c'est un oiseau de la famille des passereaux. Ouais. Et donc c'est lui, Le Roi te l'est, c'est ce frère tombé du nid. On vous compare souvent au poète Christian Bobin, Jean-François Beauchemin. C'est un auteur que vous aimez ?
Oui. J'ai de petites réserves. Je ne sais pas si je devrais les exprimer ici devant des millions d'auditeurs, mais parce que Christian Bobin, quand même, est mort il n'y a pas si longtemps. Je veux respecter sa mémoire. Mais oui, c'est un auteur que j'aime, je vais le dire comme ça.
D'où vient cette comparaison, selon vous?
De cette sensibilité, je pense. Je crois comprendre que Christian Bobin avait le même regard sur le monde, d'abord.
Sur la vie quotidienne?
Oui, sur les petites choses qui font les grandes. Et puis, cette même sensibilité aussi, à fleur de peau, dirions-nous. Bobin aimait bien la poésie aussi, hein, une certaine musicalité dans des mots. Et puis, il avait ce regard, de tendresse. C'est comme ça, en fait, que moi, je le comprenais. Je ne sais pas si...
C'est vrai que vous avez une tendresse commune. Alors, j'aimerais qu'on parle d'un troisième livre, puisque cette semaine paraît en France, 3 ans sur un banc, votre recueil de nouvelles, sorti au Québec en 2022, où vous êtes assis sur le même banc pendant 3 ans et avez recueilli les anecdotes de plus de 100 personnes. L'occasion d'entrer, cher Jean-François Beauchemin, dans votre atelier d'écriture.
Lilia Hassen, etc.
Si vous me permettez, d'abord, précisons une chose, c'est que ce livre-là, 3 ans sur un banc, n'est pas un livre autobiographique. Hein, pas plus que Le Roi te l'est, pas plus que Le Jour des Corneilles, bien sûr. je ne suis pas allé m'installer sur un banc pendant 3 ans, comme il est dit dans la préface.
C'est une question que je vais vous poser.
Bon, d'accord, je vous précède alors.
Alors, pour nous parler de 3 ans sur un banc, j'accueille Sandrine Babu, libraire à la librairie L'Instant à Paris. Bonjour Sandrine.
Bonjour.
Vous connaissez bien le travail de Jean-François Beauchemin et vous avez été enchantée, une fois de plus, à la lecture de ses nouvelles.
Oui, alors moi je suis comme Thomas, je suis fan de Jean-François Beauchemin. Mes clients de plus en plus aussi, ça y est, on est en train de répandre ça partout. J'aime bien vous écouter aussi, parce que là j'ai la chance de vous écouter. Dans 3 ans sur un banc, moi j'ai été touchée par ces histoires voilà, que j'ai lues comme des petits contes qui touchent à la fugacité, au hasard de la vie, à ce qui fait une vie. J'étais un petit peu déroutée parce que c'est très très court, je m'attendais à... J'avais envie d'en dire plus en fait, hein, je pense que c'est pour ça que j'étais un peu déroutée. Ce que j'ai aimé, c'est qu'on retrouve aussi dans votre livre, on sent votre patte, hein, on sent quelque chose relie tous vos livres, même si vous écrivez des livres différents, assez différents. On a une absence de familiarité, c'est très agréable de vous retrouver, de retrouver votre plume.
Et ce oui, que j'aime c'est beaucoup, toujours le même ouais, esprit. Hein.
C'est toujours le même esprit, mais c'est quand même différent. Entre Le Jour des Corneilles, 3 ans sur un banc et Le Roi Atelier, on a quand même des formes différentes. Oui, et ça, c'est une force, je trouve. Et ce que j'aime dans votre écriture, c'est que moi, parfois, quand je veux exprimer quelque chose, un sentiment, une impression, les mots ne viennent pas correctement. Alors, quand on vous lit, bah, c'est limpide. Ça ouvre la bonne brèche, ça nous éclaire. Et puis, surtout, vous ne cédez jamais à la facilité, même si vous utilisez des mots simples. Il n'y a pas d'emphase chez vous. Et ça, c'est vraiment très appréciable. Et alors, vous parlez d'auteurs à qui on vous compare. Moi, j'ai pensé à des auteurs, je ne sais pas si vous les connaissez, comme Laurine Roux, pour le rapport à la nature. J'ai pensé à Gaëlle Josse, pour le ciselé, la poésie, à Charles Juliette, pour la force de la simplicité. Moi, je pourrais en citer d'autres, hein, mais voilà, c'est des auteurs que j'aime hein, et que j'aime beaucoup conseiller à la librairie. Vous les connaissez ?
De nom seulement, d'accord. J'avoue mon ignorance.
Mais c'est des auteurs qui sont effectivement très appréciés des libraires.
Oui, tout à fait.
Oui. Bon, mais tant mieux si on établit de telles comparaisons avec des écrivains qui sont
de grande qualité.
De grande qualité, tant mieux.
Et j'avais envie de vous citer, parce qu'évidemment, moi j'avais... entouré, surligné, des dizaines de passages, mais il a fallu en choisir un. Vous dites à un moment, il nous faut autour de nous la présence d'êtres aimés. Séparés d'eux, nous peuplons le vide de fantômes. Alors je l'ai choisi parce que dans vos livres, il est souvent question d'absents, de morts, de fantômes qui viennent à la rencontre de vos personnages.
De fantômes, oui.
Ouais, mais ça mène pas à la tristesse, ça mène à l'émotion et au souvenir. Et ça, ça fait beaucoup de bien en fait quand on lit vos livres.
C'est vrai, j'évite en fait de tomber dans la tristesse, dans la nostalgie.
Parce que vous abordez des thèmes difficiles, mais malgré ça, ce qui ressort, c'est cette impression là, que ça nous fait du bien.
De joie.
De joie.
C'est vrai qu'il y a beaucoup de morts, de
même
fantômes.
Même dans Le Jour des Corneilles, il y a des fantômes.
Ah oui, il y a des fantômes, il y a des morts, il y a des gens qui souffrent, il y a des gens qui se souviennent, qui ont de mauvais souvenirs en fait. Il y a des gens blessés, il y a des gens meurtris, il y a des gens malades. Il y a des gens endeuillés dans mes livres. Il y a beaucoup, beaucoup de ça. Mais c'est vrai, et je suis content que vous le notiez, ça ne débouche que rarement sur de la tristesse, tout ça. Il y a toujours, je ne sais pas comment je fais ça, là, mais il y a toujours moyen pour ces gens-là que je mets en scène de trouver le chemin vers la joie, malgré leur chagrin. Alors, comment je trouve moi-même le chemin qui mène vers la joie, tout en parlant de la mort et du deuil et du... Je ne le sais pas.
Sandrine, vous aviez une question à poser à Jean-François Beauchemin.
Oui, sur un point qui a juste été abordé un peu avant. En fait, dans 3 ans sur un banc, alors, je me suis assez vite demandé si ces histoires qu'on nous présentait comme... des histoires réellement vécues. Si elles avaient, on vous les avait vraiment racontées ou si vous les aviez inventées. Alors, ce qui m'a mis un peu la puce à l'oreille, c'est que certaines histoires vous sont envoyées par la poste ou par mail et elles sont tellement bien écrites et tellement bien ciselées. Je veux bien que les gens écrivent bien, mais je me dis quand même il y a la patte de l'écrivain là derrière. Alors je vais pas vous demander si c'est des histoires vraies ou pas. Il faut peut-être garder le mystère.
Ouais. Mais oui, demandez-le.
Je vous le demande alors. Allez.
Et bien voilà, tout est inventé. Il y a rien de vrai dans ce livre-là, ni les personnages, ni les histoires. J'ai tout inventé.
Bah c'est votre talent. Alors. Non, par contre, ce que je voulais vous demander, c'était important qu'elles soient réelles ou pas, ces histoires. Qu'est-ce que ça change, en fait?
Ben, effectivement, ça ne change pas grand-chose, qu'elle le soit ou non. Ce qui compte, c'est la vérité, non pas des histoires, mais c'est la vérité du texte. Hein, c'est la vérité de ces gens-là, justement, que je crée, qui sont sortis tout droit de mon imagination. Ce qui compte, c'est la vérité de l'imagination.
C'est vrai que ça vient beaucoup de votre écriture, et j'avais une question là-dessus. Cette écriture entre Le jour des corneilles, il y a 20 ans, et ce livre, paru récemment, est très différente. Mmh. Est-ce que vous adaptez votre style aux propos, ou est-ce que vous avez épuré votre style avec le temps?
Je n'ai rien épuré, je pense pas. C'est une question que je ne me pose pas, ça, vous savez, vous. Je m'assois et puis je commence à écrire, c'est tout. Et puis, selon ce que je raconte, bien, les mots me viennent et le ton me vient, les tournures me viennent, mais ce n'est pas une réflexion que je me fais. Je ne me dis pas, bon, bien, maintenant, à partir de maintenant, j'adopte tel ton.
C'est quelque chose de naturel chez vous, en fait. Vous avez pensé au jour des corneilles, c'est la langue qui s'imposait.
Oui, ça n'est pas prémédité, c'est quelque chose qui s'impose. Et puis, c'est comme ça, je ne réfléchis pas à ces choses-là. Je m'assois et je travaille, et c'est tout. Et puis, c'est la force des mots, hein. C'est la merveille aussi des mots, c'est la puissance des mots. Je me laisse guider par eux, parce que les mots appellent les mots, il faut le dire. Hein. Souvent, j'écris... un seul mot, et puis je le tourne dans tous les sens, et de ce mot sort une phrase. Et j'écris une phrase, je la tourne dans tous les sens, et de cette phrase sort un paragraphe, et ainsi de suite.
Là, dans ce cas précis, vous parlez d'une anthologie de l'improbable. S'asseoir sur un banc, c'est s'ouvrir au hasard. Et le hasard vous a livré des destins incroyables. Un plongeur avalé par une baleine, les aveux d'un tueur à gages, un homme qui gagne au loto en jouant les numéros inscrits sur un flacon de sauce piquante, des oiseaux ivres à cause de la consommation de bêtes remures, des jumeaux qui ne sont pas nés le même jour. Quelle est votre histoire préférée parmi toutes celles que vous avez écrites?
Ah, j'aime bien celle du... Je ne me souviens plus de son titre. Vous savez, c'est celle de cette alpiniste japonaise, si ma mémoire est bonne, qui gravit l'Everest.
Ouais, c'est quelques pas dans la neige.
Quelques pas dans la
neige.
Avec une panthère des neiges.
Mon animal fétiche. Comment le saviez-vous?
Du regard. Ah, je suis content que vous me rappeliez ça.
C'est votre préféré aussi.
Oublié.
Oui. C'est-à-dire que le logo de ma librairie, c'est une panthère des neiges. Alors, voilà.
Oui. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots, Sandrine?
Oui, parce qu'en fait, on s'attend pas à ce qui va se passer. Ça va être une... en même temps, c'est difficile d'en parler parce qu'on va tout de suite dévoiler parce que les histoires sont très courtes. Mais...
Ah, c'est pas grave.
Il y en a plein, c'est pas grave. Et puis, de toute façon, j'ai l'impression qu'ils s'en fichent.
Donc, cet alpiniste, en fait, va finalement être miraculeusement sauvé par ce que vous appelez ce gros chat blanc, en fait.
Oui, c'est ça. Parce qu'il y a eu une avalanche, hein, c'est ce que je me rappelle.
Il y a une avalanche.
Pardonnez-moi ma mémoire défaillante, là, mais j'écris des choses des fois que j'oublie bien rapidement.
Ben, vous ne vous relisez peut-être pas aussi ce qui est...
je me relis, pourtant je me relis, mais je n'ai aucune mémoire. C'est à la fois un atout et un grand défaut, mais enfin, ça c'est bon problème. Mais tout ça pour dire que l'histoire en question du chat blanc, là, l'escalade quelques pas dans la neige, c'est moi qui l'ai écrite, ça c'est sûr, mais je n'en ai pas beaucoup de souvenirs.
Et l'histoire de Hitler sauvé de la noyade enfant, parce que ça c'est une histoire vraie.
Ah oui, c'est vrai que ça a été inspiré de la réalité. J'ai lu ça quelque part, que Hitler se baignait dans je ne sais plus quelle rivière, en Allemagne, je pense, ou en Autriche.
Dans votre livre, c'est en Allemagne.
En Allemagne. Et puis, qu'il avait été sauvé des eaux par je ne sais trop qui. Oui. Et puis, voilà. Et puis, alors ça pose la question. Si Hitler n'avait pas été sauvé de la noyade, que se serait-il passé dans l'histoire? Hein, dans l'histoire avec un grand H. Est-ce qu'on aurait connu la Deuxième Guerre mondiale, par exemple, et tout et tout? Donc, c'est la question que je pose dans cette histoire-là, hein, de façon indirecte, bien sûr.
Mais c'est dans la, oui, c'est ça, c'est dans la ville autrichienne de Brno... Ah, c'est impossible à dire. Brno am Inn.
Oui, c'est ça. Okay, merci de
réfléchir. En 1894.
Voilà. Mais voilà, ce sont des histoires qui, la plupart du temps, sortent de mon imagination, mais par moments aussi m'ont été inspirées par des anecdotes de ce genre-là. Là. Et celle-là, je la trouvais amusante, quoi. Le fait que Hitler... dans la réalité, ait été sauvé de la noyade, enfant, je me disais, ah, mais voilà qui est intéressant, qu'est-ce que ça aurait été?
Ah oui, ça nous laisse songeur, en fait. C'est,
ben oui,
c'est le ça. Principe de toutes vos nouvelles.
L'histoire aurait été changée, probablement.
Jean-François Beauchemin, dans un instant, on retrouve notre libraire belge Raphaël Longo pour son coup de cœur de la semaine. Mais d'abord, on écoute Junior Monumental. Vous écoutez Etc. et nous sommes toujours avec l'auteur québécois Jean-François Beauchemin. C'est l'heure du conseil lecture de la semaine.
Lilia Hassen, Etc.
Et j'accueille notre libraire belge Raphaël Longo. Bonjour Raphaël, vous travaillez à la librairie Livre au Trésor à Liège. Votre coup de cœur de la semaine, c'est L'éveil du Palazzo de Léo Henry aux éditions du Bélial.
Voilà, cette semaine, je vous invite à l'aventure avec un auteur touche-à-tout, l'un des plus prolifiques de l'imaginaire et de la fantasy francophone, donc Léo Henry. Son nouveau livre, donc L'éveil du Palazzo, est le deuxième d'une série annoncée de 10 tomes qui se nomme 1000 saisons. Mais ce volume peut se lire indépendamment sans souci. Les deux histoires sont, bien que se passant dans le même univers, sont totalement distinctes. Et l'autre particularité de cette série, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est que l'auteur, sûrement inspiré par Robert Louis Stevenson, qui rédigea L'île au trésor avec son beau-fils adolescent, a écrit cet immense feuilleton avec ses deux enfants de 11 et 13 ans. Alors c'est donc un projet un peu extravagant et très ambitieux qui met l'enfance sous toutes ses formes en son cœur. Il exalte la puissance de l'imaginaire ingénu, mais loin d'être puéril, cet univers a une forte dimension politique. Car à travers l'histoire de jeunes orphelins, laissé pour compte qui cherche à réapprendre à rêver dans une ville où seules les classes supérieures y ont droit, Léo Henry réinvente la notion de merveilleux. Ici, la vraie magie, ce n'est pas les pouvoirs miraculeux, mais l'union des monstres, l'expérience collective, la révolution contre l'oppresseur et l'onirisme décomplexé.
Alors, on comprend, Raphaël, que c'est une fable politique, mais c'est aussi sa dimension ludique et le style qui vous ont plu, j'imagine.
J'ai beaucoup aimé le style de Léo Henry. C'est un véritable éloge de l'impureté littéraire. Il y a vraiment 1000 références qui se bousculent à la littérature, bien sûr, mais aussi aux jeux vidéo, au manga, au cinéma. Il y a pas vraiment de classement de valeur dans ce qu'il raconte. Et c'est vraiment porté par un goût du mélange, vraiment un goût du ludique comme ça, avec la pop culture en ligne de mire. Et c'est vraiment un délice. Il y a aussi beaucoup de personnages qui ont un parler très gouailleur, beaucoup de gouailles comme ça, qui rend l'objet assez inoubliable et assez drôle, quoi. Donc Léo Henry nous fait vraiment nous reconnecter avec notre enfant intérieur, celui qui arrive à s'émerveiller assez facilement, mais celui aussi qui peut se révolter avec fracas. Mais avec lui, la littérature est un vrai jeu d'enfant.
Et c'est un livre que vous conseillez à qui ? Est-ce qu'il y a une tranche d'âge spécifique ?
Alors je dirais à partir de 14 ans, pour pouvoir comprendre un peu les subtilités de l'intrigue et des personnages quand même. Et après, pas de limite. Tous ceux qui ont envie de réveiller l'enfant intérieur qui sommeille en eux, il n'y a pas de limite d'âge après.
Merci Raphaël. Le titre, c'est donc L'éveil du Palazzo de Léo Henry aux éditions du Bélial. Dernière question, Jean-François Beauchemin, pour quelqu'un qui n'a pas encore lu vos livres, il faut commencer par lequel ?
Ah bon, alors il y en a déjà presque une trentaine hein, sur les tablettes, là, alors au Québec en tout cas. Mais chez vous, il y en a quoi, 5 ou 6, je crois. Commencer par lequel Le Roi Telet, je pense, est une bonne porte d'entrée, en ce sens que ça donne une bonne idée de l'esprit dans lequel je travaille, de la sensibilité aussi que je déploie.
C'est votre préféré?
C'est certainement l'un de mes préférés. Moi, mon préféré demeure Le Jour des Corneilles. Ça sera dur à battre dans mon palmarès personnel. Mais cela dit, Le Roi Telet, je ne conseillerais pas aux gens de commencer par Le Jour des Corneilles.
Parce que c'est un
livre un peu noir, qui peut faire peur. Hein? Quand on lit dès les premières lignes, on se pose la question, est-ce que je suis dans une histoire d'horreur? C'est possible.
Oui, il y a plein de gens qui adorent les histoires d'horreur.
Ben oui, mais ce n'est pas le cas de la majorité, je crois. Moi, en tout cas, ici, autour de moi, il y a des gens qui n'aiment pas du tout.
Le Roi de Lait est plus classique.
Oui, plus doux, en tout cas, plus invitant, me semble-t-il. Plus doux, plus tendre. Alors que le Jour des Corneilles est une histoire dure. Dès les premières pages, on entre dans un univers qui est très dur.
Thomas Auxerre, par quel livre de Jean-François Beauchemin il faut commencer?
Bah, pendant très longtemps, j'obligeais les gens à prendre Le Jour des Corneilles. Mais c'est vrai que depuis que le Roi Telet est paru, je recommande de commencer par celui-là. Ensuite, de faire Le Jour des Corneilles. Bon, de toute façon, de tous les faire. Hein. Et puis, bah, bien sûr, quand même, le tout dernier qui vient de paraître. Je pense que pour entrer en matière, ça peut être une très bonne idée aussi. Oui.
Ouais. Est-ce que tu parles de Mémoire de Meron Schwartz, Thomas?
Alors non, celui-là, je ne l'ai pas lu. Je pensais à La Fabrication de l'eau.
Il n'est pas sorti encore ici.
Mais il n'est
pas encore sorti en France,
Jean-François. On attend, plus, mais...
Parce que c'est une vieille chose ici, ça, La Fabrication de l'eau, déjà, tu vois. J'ai écrit ça en 2007.
Ah, je sais, mais oui.
Sandrine Babu, vous êtes d'accord avec Thomas Auxerre?
Le Roi Telet, je pense que je commence. Ah, non, moi, je commencerais plutôt par Le Roi Telet aussi. Pas par Trois jours sur un banc ou par ce que tu citais, parce que Le Roi Telet, après, moi, j'ai pas tout lu, hein, malheureusement, mais franchement, je trouve que Le Roi Telet, c'est une bonne porte d'entrée.
Ben, oui. Merci. Merci, Jean-François Beauchemin. On recommande vos livres, tous vos livres, qui sont...
C'est gentil, merci beaucoup.
qui sont d'une poésie et d'une humanité rare, et ça fait du bien en ce moment. Je rappelle les coups de cœur de l'émission, 3 ans sur un banc, qui vient de sortir en France, donc, Le Roi Telet, une histoire de tendresse fraternelle, et surtout, Le Jour des Corneilles, car comme le dit si bien notre libraire Thomas Auxerre, vous n'avez jamais rien lu de tel. J'en profite pour saluer nos libraires du jour, Thomas Auxerre, donc, Sandrine Babu et Raphaël Longo. Je rappelle qu'Etc. est une émission France Inter en coproduction avec les médias francophones publics. Merci enfin à mon équipe, Lilian Allôme à la réalisation, Élise Christophe à la technique, Estelle Gap, Virginie Rouzic et Ethel Alzial. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine.